entretien avec Jean-Frédéric Kerjuel.
Le
16 janvier 2008. On va commencer par l'offensive politique. La question numéro 1. Vous avez débuté en chanson avec des chants de contestation. Pouvez-vous m'expliquer le climat de cette époque, les années 1960 ? Quelle était cette force de rébellion qui vous portait à croire une transformation possible du paysage politique, du champ libertaire ?
C'est une immense question, une très vaste question. Ça toucherait plutôt un historien, je ne suis pas historien. Mais ce qui m'intéresse de parler, c'est de la force de rébellion, parce que ça, c'est quelque chose que je crois était tangible et palpable dans ces années, quelque chose qui venait comme après les horreurs de la guerre, après l'après-guerre, pas aussi horrible, mais embringué dans la reconstruction des pays et donc un effort matérialisme sans précédent. La force de rébellion, je crois, venait de ce que une grande masse de gens pensaient que les forces de l'esprit pourraient à ce moment-là sortir du chaos et gouverner un peu plus qu'elles ne faisaient. Alors que les gens se précipitaient dans la consommation, parce que c'était, et dans le travail aussi, bien sûr. Une manière d'oublier, une manière aussi de tourner la page et de faire autre chose. Mais est-ce que les forces de l'esprit auraient pu combattre ça et apparaître plus? Alors ça, c'est, je crois, une frange de gens pensait ça. Une frange de gens voulait ça. J'ai vécu ma vie dans les années 60 comme quelqu'un qui cherchait ça, qui cherchait partout ça. Et qui ne le trouvait pas vraiment non plus facilement. C'est pas une question de que ça courait les rues. Et c'est plutôt une question d'ordre intérieur. C'est plutôt un choix fait au cours de la vie vers les choses de type intérieur, la poésie, les phénomènes aussi qu'on peut qualifier de métaphysiques dans l'existence, qui sont l'aspiration à ce qu'il y ait quelque chose qui soit plus grand que nous et qui nous touche à un certain moment, qui est une sorte d'aile qui nous couvre de temps en temps et qui nous parle en quelque sorte. Donc ça c'est aussi mais qui passait pas par les religions de l'époque, en tout cas qui passe pas par les religions instituées forcément. Donc c'est ça la force de rébellion, je crois, une force de rébellion qui s'appuie aussi sur l'anticolonialisme, l'arrêt de la colonisation, l'antimatérialisme forcené, l'anticapitalisme. Ces trois choses-là étaient extrêmement fortes à l'époque. La désertion, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, c'était une chose très importante, très symbolique. Comme guide de vie dans un monde qui finalement, comme maintenant probablement, mais affichait clairement que seul le profit avait un intérêt. Donc les historiens ont beaucoup parlé de la force de rébellion des années 60, comment ça s'est manifesté et tout ça, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Mais la question de croire possible une transformation du paysage politique, c'est vraiment une grande question. Moi je croyais que c'était possible.
Vous ne le croyez plus?
Je croyais que dans les années 60, avant 68, c'est pour ça que je m'étais opposé à la guerre d'Algérie et que j'étais objecteur de conscience, donc j'étais emprisonné. Je me suis opposé à la guerre d'Algérie parce que je croyais la colonisation c'était fini, ce qui était vrai, mais que deux, la militarisation des esprits et des peuples c'était fini, ça devait se terminer. Je croyais que ça. On était en pleine guerre froide, mais quand même, j'avais l'espoir que les choses pouvaient ne pas être régies uniquement par la guerre militaire, comme ça avait été fait jusqu'à présent. Surtout qu'on sortait quand même d'une effroyable boucherie. On a tellement appris des choses tout le monde le sait maintenant. Donc, et au moment où on a vécu les années 60, des gens comme moi, on ne savait pas tout. On a appris petit à petit. Quoi. C'est... Les langues, les gens ne parlaient pas beaucoup déjà, et puis ni dans les familles, ni dans les journaux, ni dans les publications, il n'y avait pas autant de témoignages qu'il y a eu par la suite. Et la vraie question de la rébellion, c'est qu'elle était en fait d'un ordre politique, certes, mais aussi très intériorisé, très libertaire en fait. C'était des gens souvent seuls, ou qui se sentaient seuls, mais reliés à d'autres solitaires, quoi, en gros. Et ça faisait comme une masse un peu. Ce qui a expliqué l'éclatement de mai 68, je crois. Qu'il y avait beaucoup de monde comme ça, en fait. C'était pas quelques individus, c'était des millions d'individus qui ressentaient quelque chose qui n'allait pas, qu'ils auraient voulu transformer le système autoritaire dans lequel on vivait, qui n'était pas d'ailleurs épouvantable. Le système de l'époque, probablement que maintenant il y a des gens qui l'envieraient, qui aimeraient vivre dans ce système des années 60. Le système gaulliste, par exemple, fort, autoritaire. Ça permettait une opposition, ça permettait une discussion, un débat, une activité politique agressive aussi. Et ça permettait un échange, ça permettait par exemple pour les gens comme moi de dire, bon ben, ce qui m'intéresse c'est la musique, la poésie, c'est de voir comment le monde s'organise autour des valeurs de la création. Donc comment ces valeurs, elles peuvent se traduire sur le champ politique, comment elles peuvent se traduire dans la société, comment est-ce qu'on peut vivre au fond pas d'être un poète, parce que les poètes ne vivent pas, ils s'embrasent et ils s'éteignent, mais... Évidemment, mais il s'agissait quand même de ne pas faire de la politique, mais d'être politisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Note sur vos étagères le quarto Gallimard consacré à Guy Debord. Vous étiez un témoin direct de ces émeutes. C'est une question. Où étiez-vous en 68? Étiez-vous au courant des offensives situationnistes?
Alors en 68, j'habitais rue Mouffetard, c'est-à-dire quartier latin. Je faisais de la musique. Et de la musicothérapie dans un EMP, donc je soignais entre guillemets des jeunes adolescents troublés avec des étiquettes, mais j'essayais de mettre de la musique et du théâtre, de la poésie dans leur vie pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer un certain nombre de choses. Alors ça, je gagnais ma vie comme ça et je faisais du théâtre aussi, donc soit comme comédien, soit aussi comme musicien. Donc Et quand mai 68 est arrivé, j'ai compris, je crois, je me suis trouvé dans une manifestation par hasard. J'étais pas étudiant, hein. C'est important de dire ça. Je travaillais déjà. Mais je me suis trouvé par hasard dans une manifestation où j'ai eu l'impression d'être tout à fait à ma place. Je me suis dit, tiens, j'avais jamais vu un mouvement comme ça, parce que tous les mouvements politiques que j'avais abordés avant, c'était des mouvements très structurés, avec des chefs, un encadrement, quoi, comme le Parti communiste, et tous les partis étaient comme ça, encadrés par un certain nombre de cadres, de dirigeants. Et là, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait rien. C'était une espèce de jeu, de fête bizarre, très bizarre, dans Paris, où on courait. Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, l'analyse politique était nulle de ça. Je comprenais même pas qu'il s'agissait d'un mouvement politique, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y en avait pas, probablement. Mais le jeu de la... du CRS et de la souris, quoi, c'était quand même très amusant. Alors, c'est comme ça que je me suis trouvé pris dans ce mouvement. Et après, je n'ai pas quitté parce que j'ai trouvé ça très... En approfondissant les choses... J'ai trouvé que ça me convenait bien, que ce que j'étais en train de faire, par exemple, dans le domaine de la rééducation, eh bien, c'était réadapter des gens pour un système que, en fait, je combattais. Donc, les faire vivre dans un monde. Et j'avais, je croyais à ce moment-là qu'on allait changer tout à fait les donnes et de la société. Donc, j'ai pratiquement pas cessé mes activités, mais petit à petit, elles se sont éloignées de moi. Par exemple, au théâtre, je jouais dans un Shakespeare, dans une troupe qui était dirigée par Ariane Nouchkine. Et je faisais Oberon dans Le Songe d'une nuit d'été. Et il y avait un très beau décor, c'était une très belle pièce. C'était très intéressant. Mais ce qui se passait dans la rue m'intéressait beaucoup plus que ce qui se passait au théâtre. Ce qui passait au théâtre me paraissait mort par rapport à ce qui se passait dans la rue. Donc, avec quelques camarades comme ça, on a commencé à faire un travail de rue avec des chansons, en composant. On a occupé un théâtre et c'est comme ça que, en fait, j'ai abandonné mes activités de comédien et peu après, les activités de psychopédagogue, dans la mesure où je suis parti en Bretagne. Donc j'ai lâché cette activité que j'avais sur Paris. Mais l'intéressant, c'est que ce qui m'a paru vrai, c'était que pour une fois, dans la rue, partout, dans les théâtres occupés, dans le monde de mai 68, disons, dans la Sorbonne occupée, partout où il y avait une activité, entre guillemets, révolutionnaire, parce que ça, je ne sais pas si c'était vraiment révolutionnaire, mais l'activité d'insurgé, en tout cas, ça c'est sûr. Partout, il y avait une parole qui devenait plus libre. Une parole qui avait un sens immédiat, c'est-à-dire de mettre en rapport deux personnes qui ne se connaissaient pas avant et de les faire parler sur des choses qui nous tenaient à cœur. On voyait qu'en fait, on pouvait maîtriser beaucoup plus son destin à travers les mouvements des comités d'action, par exemple. On devenait une force, on devenait quelque chose qui avait. Et on le devenait d'une façon presque avec une respiration naturelle. Et ça a été décisif pour moi. C'est une chose, non seulement je regrette pas, mais je crois en plus, je crois que de toute cette période-là, je conserve l'idée que c'est une bonne solution. C'est-à-dire de repartir sur des bases où c'est les gens du peuple, les gens directs qui sont consultés, qui disent ce qu'ils ont envie de faire. Et là, il y avait une bataille pour faire ça. Et maintenant, par exemple, je vois dans la dernière campagne présidentielle, Ségolène Royal, elle a fait des réunions de participation, les gens ont parlé beaucoup. C'est presque évident. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout, du tout. Les gens n'avaient pas la parole. C'est des représentants de l'autorité qui avaient la parole, ou des représentants des syndicats, ou d'un parti, ou d'une télévision, mais les gens n'avaient pas la parole. Donc, si on se reporte à ces années, avant de dire quoi que ce soit de plus sur l'intérêt que ça a pu avoir, c'est que on a pu prendre la parole, on a pu dire quelque chose de la vie qu'on menait, de celle qu'on aurait voulu mener, des ambitions, des espoirs. On a dit aussi des poèmes, on a dit des chansons, comme par exemple la question, les offensives situationnistes, c'est évident que ça m'a beaucoup frappé quand ils ont commencé à écrire sur les murs les slogans situationnistes, c'était absolument merveilleux, qui subvertissaient complètement l'utilisation de la parole m'a semblé magnifique. Non seulement au courant, mais ce sont des gens qui, je crois, ont été mêlés profondément, représentent le mouvement. Guy Debord représente ce mouvement 68 pour moi. Il représente le meilleur de ce mouvement, c'est-à-dire l'intelligence, la capacité de réagir dans une situation qui est très rapide. Enfin, c'est ça aussi, hein, c'est la capacité de s'engager dans une action sans qu'il y ait non plus 40 réunions avant de décider s'il faut descendre l'escalier ou pas. Et alors il y avait cette rapidité d'esprit, cette intelligence politique et poétique, les deux mêlés, que je trouvais remarquable, et qui a très bien marché d'ailleurs, et qui signe un petit peu, pour moi, ça signe un peu le meilleur du mouvement de 68. Si on prend par exemple l'unité l'utilisation des mots, comme ce qu'on faisait au théâtre de l'Épée de Bois. On essayait de synthétiser en une phrase quelque chose qui en fait concernait des millions de gens. Mais il fallait que la phrase soit ramassée, incisive et puisse frapper. Alors nous, moi je suis assez admiratif des situationnistes sur ce plan-là, c'est qu'ils avaient travaillé le langage de telle façon qu'ils étaient prêts au moment où 68 a éclaté. Ils étaient tout à fait prêts à intervenir dans cette situation insurrectionnelle. Et là, la plupart des slogans étaient empreints d'une poésie assez forte, je trouve, d'action, poésie d'action assez forte. Et s'il ne restait qu'une chose, peut-être ça pourrait rester. Tandis que, je dois dire, dans les œuvres auxquelles j'ai participé à ce moment-là, c'était des œuvres plutôt d'agit-propre, et qui dénonçait un certain nombre de choses ou essayait d'attirer l'attention des gens sur un fait précis, quelque chose de très précis. Où, bon, la lutte de classe était très présente encore, et donc il y avait quand même une analyse à partir de la lutte de classe, c'est-à-dire de ce qu'on était en train de faire, de pouvoir être, pouvoir se référer quand même au fait qu'une classe. Même si ce n'était pas la classe ouvrière, dans mon esprit, c'était les vieux systèmes, le trotskisme, le maoïsme, ça c'était des vieux systèmes déjà. Mais une classe, c'est-à-dire un peuple nouveau, pouvait naître de ces insurrections, de ce comité d'action, de cet ensemble, et à ce moment-là, exercer des responsabilités. Une fois formé, une fois. Bon, ça s'est pas fait. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ça n'a pas eu de traduction politique quelque part. Ça, je le regrette, mais c'est comme ça. On n'a pas réussi le coup là, de mettre l'action de mai 68 dans un ordre politique qui aurait été compris par tout le monde et accepté. Par exemple, on était contre les élections, c'était peut-être une erreur. Ça, moi, maintenant, je le pense. J'étais contre les élections, je trouvais que ça n'avait pas de sens. On voulait une démocratie directe, un pouvoir direct. Mais c'était du domaine de l'utopie, quoi. Il faut voir que le rêve, et en ce sens-là, moi je me sentais très bien, le rêve avait une part très importante dans les 68. On rêvait tout haut, quoi. Mais c'est très agréable. La vie est très agréable quand on peut la rêver tout haut, comme ça. C'est pas vrai, mais c'est comme si c'était vrai. Et finalement, c'était mieux que ce qui était vrai. Alors. C'est un rapport avec le théâtre aussi, entre le mensonge et la vérité. Quand la vérité fait mal, il vaut peut-être mieux mentir et être bien. Alors, mai 68, c'est un truc qui a brillé. Oui, c'est un beau mensonge, peut-être, mais dont la valeur est très difficile à prouver. On ne peut pas prouver la valeur. On ne peut pas non plus prouver sa non-valeur. On ne peut rien prouver. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on disait, je me réveille, j'ai fait un rêve. Alors, l'un dit ça a de la valeur, l'autre dit ça n'en a pas. Le psychanalyste dit ça a beaucoup de valeur, racontez-moi. L'autre dit, mais on s'en fout, viens travailler. Ça n'a pas de sens, on a rêvé de toute façon.
Avez-vous jamais été un lecteur de Tel quel? Cette revue de ces acteurs vous a-t-elle semblé décisive? Sinon, pourquoi? Quelle était votre propre approche de la contestation?
Je ne connaissais pas Tel quel, donc je l'ai connu après. Enfin, je connaissais le nom de la revue et j'avais essayé de lire, mais je n'arrivais pas vraiment à accrocher. Donc je ne peux pas dire que j'étais pas un lecteur de Tel quel. Si j'avais été, peut-être j'aurais compris beaucoup plus de choses, mais je ne l'étais pas.
Quelle était votre propre approche de la contestation? Essentiellement
Alors,
les champs de contestation.
Oui, ça c'est la traduction, ça. Mais la contestation pour moi, c'était depuis presque la naissance, quoi. C'était un état d'être, c'était une rébellion intérieure. Je ne pouvais pas imaginer autre chose que d'être rebelle à ce que je voyais autour de moi. Il n'y avait rien qui m'intéressait dans les ordres, ni Bah, peut-être c'est ma propre. Si j'étais né dans d'autres conditions, si j'avais, peut-être j'aurais ressenti les choses différemment, mais telle que ma vie s'était passée, ma naissance, et puis après l'enfance, après, j'allais dire l'internement, mais ce n'était pas un internement, être interne constamment, subir au fond, être quelqu'un qui subissait en fait sa vie et qui ne pouvait pas la diriger. Ça m'a semblé. Devoir être cassé, quoi, devoir être. Et puis surtout les idées qui étaient derrière, devoir les combattre. L'idée que parce que quelqu'un était, par exemple, avait l'autorité paternelle, il avait forcément raison, dire, parce que celui-là avait réussi à avoir un poste important. Cette hiérarchie est très très précise de la société française de l'époque, et la hiérarchie liée au pouvoir et à l'argent. C'est quelque chose qui pour moi était et qui le reste là, qui reste. C'est contestable. Ça reste quelque chose à ne pas mettre au premier plan, quoi, c'est ça. Donc la contestation était personnelle. C'est une forme d'éclatement aussi, je dois dire, créatif pour moi. C'était une question créative d'être contestataire. Ce n'était pas une question passive, là. C'était de devenir créatif. C'est-à-dire de prendre un outil, quel qu'il soit, mais pour s'en servir. C'était l'écriture pour s'en servir. C'était devenir créatif, d'arriver à l'être, quoi. Et comme ça. Alors, c'est ce que c'est chercher le bonheur, je ne sais pas, mais ça c'était chercher d'être mieux, quoi, d'avoir plus de un champ plus vaste où expérimenter les choses qu'il faut expérimenter quand on est jeune, par exemple. Ça me paraissait très très urgent. Parce que j'étais seul. Moi, je crois pas, il y avait beaucoup de gens. Je connaissais des gens, bien sûr, mais j'étais pas organisé. C'est-à-dire, je n'étais pas dans un groupe ou un parti, mais je me sentais. Dans ces idées de contestation, je ne me sentais pas du tout seul. Je connaissais plein de gens qui pensaient comme moi ou qui avaient ces envies-là. Mais on ne se groupait pas par. On s'est pas groupé dans un parti, on s'est groupé par affinité personnelle.
Lors de notre première rencontre, j'ai noté l'importance, cette nécessité qu'il y avait pour vous, des gens comme vous, dans les années 60 et 70, de mettre la poésie dans l'action politique. Qu'avez-vous tenté alors? Avez-vous réussi ce que vous aviez tenté?
On peut déjà tout de suite vous dire qu'on n'a pas réussi. On a tenté, mais on n'a pas réussi, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait alors? Qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité? Alors, par exemple, j'ai parlé du théâtre de rue, je parlais de la chanson politique de rue, de l'agit-prop, quoi, le caractère agit-prop, rassembler 500 personnes par un battage, créer une scénette, une chanson sur un thème, et puis après faire parler les gens. Les provoquer, en fait, c'était une provocation. Alors ça, je crois, au fond, dans mes 68 et dans la suite, dans les années qui ont suivi, ça, c'est ce qui a le mieux marché dans ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire, je savais donc jouer de la musique, j'étais guitariste, je savais chanter, je pouvais composer. Donc, j'ai utilisé ça au service d'une agit-prop, en fait. Même si après, l'agit-prop, c'est un peu plus raffiné. Ça restait quand même, le but restait quand même de dégager des idées générales et des situations générales un acte particulier qu'on allait faire et qui avait une importance. Ou alors d'être contre justement un autre acte qui avait été posé et dire pourquoi. Avec à la fin en général une petite morale qui permettait de resituer un peu l'être humain dans son schéma personnel et social, quoi. Donc, c'était en fait, à mon avis, la bonne démarche pour arriver à dire quelque chose à des gens en mouvement, parce que les gens bougeaient tout le temps, donc c'était des gens en mouvement. Il fallait aller chercher où ils étaient. Ils étaient où? Ils étaient dans la rue, ou dans des endroits occupés, ou c'était dans les usines, ils étaient et après ils étaient dans les champs, etc. Donc ils étaient un peu partout. Donc il fallait bouger aussi. C'est ce qu'on faisait constamment. On faisait des actions, on allait dans les banlieues, on se heurtait au Parti communiste, à la CGT, on faisait des actions qui permettaient, qui étaient basées sur l'idée que plus les gens parleraient eux-mêmes, plus les gens prenaient, la masse des gens allaient pouvoir prendre en main leurs propres possibilités, leur destin en main, quoi. Destiné en main, enfin, c'était un peu grandiloquent, on croyait à ça. Et plus les choses allaient se construire dans un ordre beaucoup plus humain et créatif qu'il ne l'était. Parce que c'était quand même un ordre basé sur un matérialisme très fort, réussite sociale absolument. Enfin, c'était le seul modèle, quoi. Consommation. Comme on a vu après, la chanson est devenue consommation, tout est devenu des consommations.